Les podcasts du Collège de France, littérature.
À la fin de la dernière leçon, je vous parlais de Roland Barthes dans une sorte de post-scriptum que je voudrais continuer aujourd'hui. Post-scriptum donc à l'examen que nous menions de la théorie de la vie comme récit. Et en lisant ce journal de deuil qui venait d'être publié, il m'avait semblé que c'était un écrit de vie paradoxal et qui pouvait donc nous servir en quelque sorte de raisonnement par l'absurde ou peut-être plutôt de preuve par neuf qui vérifie le point de vue que j'avais essayé de soutenir depuis quelques semaines en évaluant ce lien, en affirmant ce lien essentiel entre le récit et la vie, avec l'idée qui est donc devenue assez courante qu'il n'y a pas de vie, ou en tout cas pas de vie bonne sans récit de vie. Et je crois que toutes ces notations émues de Barthes dans ce journal de deuil confirment justement l'impossibilité de ce récit de vie dans ces circonstances, et elle répète le refus du temps, du temps qui serait celui du récit, parce que ce temps voudrait dire l'atténuation du deuil, la consolation du deuil, et s'opposerait à cette volonté qui est affirmée à chaque page de rester dans la répétition, le retour du même, le retour de l'émotion, du chagrin, qui ne diminue pas et qui reste tel quel. Je terminais, je crois, sur ces deux adjectifs que Barthes associe à ce chagrin, immuable et sporadique, qui en dit donc le retour toujours tel quel, immuable. Depuis la semaine passée, je vous disais la semaine dernière que je regrettais, parlant du journal de deuil de Barthes, de n'avoir pas eu le temps de relire Albertine disparue. Bon, c'est ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. Peut-être vous aussi. Exemplaire écrit de deuil, peut-être, justement, plutôt que récit de deuil, où l'on retrouve ce caractère répétitif du deuil, où ce retour du même à tout moment est longuement analysé, car justement, c'est une très belle illustration de cette multiplicité des mois que nous avons évoquée à plusieurs reprises. Non seulement, on va le voir, le deuil est une illustration de la multiplicité des mois de celui qui est en deuil, de l'être en deuil, mais c'est aussi une illustration de la multiplicité des mois de celui qui a disparu et qui est rappelé, remémoré dans son intégralité à tout moment, au moindre souvenir, au moindre rappel, comme s'il était une pluralité, comme s'il était une infinité. Et c'est dans les premiers moments où le narrateur apprend la mort d'Albertine qu'il observe qu'il devra faire son deuil d'une infinité d'Albertine et non pas d'une seule. Pour que la mort d'Albertine eût pu supprimer mes souffrances, il eût fallu que le choc l'eût tué non seulement en Touraine, mais en moi. Jamais elle n'y avait été plus vivante. Pour entrer en nous, un être a été obligé de prendre la forme, de se plier au cadre du temps. Ne nous apparaissant que par minutes successives, il n'a jamais pu nous livrer de lui qu'un seul aspect à la fois, nous débiter de lui qu'une seule photographie. Je crois que ce n'est pas indifférent ici qu'on trouve cette photographie qui aura aussi tellement d'importance pour Roland Barthes, mais sous une toute autre forme. C'est l'idée qu'il y a autant d'instantanés de l'être disparu dont il faudra faire son deuil, et chacun de ces instantanés rappelle un autre être dans son intégralité, dans sa totalité. Grande faiblesse, sans doute, pour un être de consister en une simple collection de moments. Donc, l'autre n'est jamais qu'une pluralité, comme le moi d'ailleurs, qu'une collection de moments. Grande force aussi, il relève de la mémoire, et la mémoire d'un moment n'est pas instruite de tout ce qui s'est passé depuis. Ce moment qu'elle a enregistré dure encore, vit encore, et avec lui, l'être qui s'y profilait. Et puis, cet émiettement ne fait pas seulement vivre la morte, il la multiplie. Autant de personnes, oui, qu'il y a d'images remémorées. Pour me consoler, ce n'est pas une, c'est d'innombrables Albertines que j'aurais dû oublier. Quand j'étais arrivé à supporter le chagrin d'avoir perdu celle-ci, c'était à recommencer avec une autre, avec cent autres. Et le narrateur compare cette expérience du deuil qui est à multiplier par le nombre, cent autres ou même innombrables, comme il le dit, que le nombre de moments, le nombre d'instantanés que la mémoire pourra rapporter. Le narrateur compare donc cette expérience du deuil à celle de la mémoire involontaire, à l'appel de moments identiques, la perpétuelle renaissance de moments anciens. Mais dans la mémoire involontaire, il y avait la douceur qui était rappelée. Ici, c'est la douleur. Je terminais l'autre fois sur cette caractérisation de l'expérience du temps de deuil que propose alors Barthes, un temps justement immobile, un temps qui ne bouge pas. Je crois que je citais ces mots pour finir, ce qu'il appelle une autre durée, tassée, insignifiante, non narrée, morne, sans recours, vrai deuil, insusceptible d'aucune dialectique narrative. Je terminais sur cela parce qu'on y trouve, en résumé, à peu près tout ce que j'ai essayé de dire jusqu'ici, en liant la vie et le temps du récit. Et on trouve ici ce temps du deuil qui, justement, n'est pas accessible à la narration, hein, autre durée non narrée, ou qui s'oppose de toute sa force, de toute l'énergie du désespoir, hein, de tout ce qu'on peut appeler l'énergie du désespoir, à la narration. Cette expérience qui refuse la narration, parce que la narration, eh bien, la nierait, cette expérience, la relèverait, la dépasserait, et c'est pourquoi Barthes fait allusion ici à cette dialectique narrative, hein, liant récit et dialectique, ce qui, dans cette dialectique, est associé à la continuité de la vie et à la signification. Refus de faire signifier le deuil, hein, durée tassée, insignifiante. Vous voyez bien pourquoi je soutenais rapidement la dernière fois que dans le deuil, il y a quelque chose comme l'envers du récit. C'est le temps et l'espace de l'immobilité et de la répétition, du retour du même. Et dans ces notes de Barthes, il y a de multiples évocations de ce côté plat, morne, le deuil comme paysage plat et morne qui l'entoure. Et je crois que cette expérience plate et morne de l'espace et du temps, du temps transformé en espace plate et morne, cette sorte de platitude perpétuelle du paysage sans horizon, du paysage qui disparaît à l'horizon, eh bien, c'est une expérience mélancolique, et c'est une expérience qui est proche de celle qu'on peut trouver, par exemple, dans de nombreuses pièces mélancoliques des Fleurs du Mal ou du Spleen de Paris, où on a cette même expérience du temps comme espace indéfini, du temps comme sorte d'espace sans horizon. Je disais l'autre fois que le premier motif, le premier leitmotiv, thème récurrent de ce journal de deuil, c'était la découverte de la mortalité. La découverte de la mortalité du fils, révélée par la mort de la mère. Et ce qui en résultait, c'était une sorte d'installation dans l'attente de la mort, dans une mort ou dans une attente de la mort plate, perpétuelle. Et cela me fait en effet songer à la manière dont on a parlé beaucoup de cette mélancolie de Baudelaire, Jean Starobinski notamment, qui l'évoquait comme condamnation à vivre au-delà de la mort, condamnation à vie à perpétuité, comme quoi on pourrait qualifier la mélancolie de Baudelaire, mais peut-être la mélancolie en général. Et dans cette mélancolie de Baudelaire, on retrouve ce même sentiment d'un présent répété à l'infini, d'une éternité qui est de plein pied dans ce monde-ci, comme un éternel présent de la malédiction. C'est par exemple ce que Baudelaire écrit à sa mère, hein. « Je me sens malheureusement condamné à vivre depuis des années qui pour moi ont été des siècles. » Cette durée indéfinie du temps présent, et je disais, on la trouverait dans beaucoup des poèmes de Baudelaire, par exemple le poème des Fleurs du Mal qui s'appelle « Le masque », c'est que demain, hélas, il faudra vivre encore, demain, après-demain et toujours, comme nous. » Jean Starobinski signalait ce rapport étroit de la mélancolie de Baudelaire et de la mélancolie en général et du délire d'immortalité. Et ce délire d'immortalité qui prend deux formes, hein, ne pas pouvoir mourir, ou alors être déjà mort et voué à une éternelle survie, découvrir un au-delà de la mort qui n'est pas différent de la vie. Et ces deux formes de l'angoisse d'immortalité donnent lieu à l'errance perpétuelle. L'errance perpétuelle, si on ne peut pas mourir, c'est celle du juif errant. Ou l'errance perpétuelle au-delà de la mort, si au-delà de la mort, on est voué à une survie sans fin. C'est le thème du mythe du juif errant, présent par exemple dans le poème des Sept vieillards de Baudelaire, où le juif errant se multiplie, justement. Et Starobinski écrit à ce propos qu'il n'y a plus guère de différence entre la mort vivante qui consiste à n'en plus finir de mourir et celle qui consiste à n'en plus finir de survivre. Il y a donc une angoisse de ne pouvoir mourir. Et d'une certaine façon, dans ce journal de deuil de Barthes, on tombe souvent dans cette idée, dans des images qui reflètent ce sentiment d'une errance perpétuelle. Suivant cette angoisse, eh bien, la mort n'est plus qu'une illusion, et au-delà de la mort, ce qu'on découvre, par exemple dans le poème « Le rêve d'un curieux » de Baudelaire, la terrible aurore de la mort, et au-delà de la mort, ce qui suit, la toile était levée et j'attendais encore. L'image la plus forte de cette mort impossible, c'est celle qu'on trouve dans le squelette laboureur, hein, dans ses vanités. Hein, c'est la description d'une planche, une gravure, et comme il y en a beaucoup dans les Fleurs du Mal, mais souvent avec ce thème de la mort impossible. Voulez-vous, d'un destin trop dur, épouvantable et clair emblème, montrer que dans la fosse même, le sommeil promis n'est pas sûr, dans la fosse même, le sommeil promis n'est pas sûr, hein, qu'envers nous le néant est traître, que tout, même la mort, nous ment, et que, sempiternellement, hélas, il nous faudra peut-être, dans quelque pays inconnu, écorcher la terre revêche et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglante et nue. Et ce thème de l'errance sempiternelle. Pleine mer de chagrin, quitter les rivages, rien en vue. Ce n'est pas Baudelaire, c'est Barthes qui écrit cela. Mais c'est une image qu'on trouverait dans beaucoup de poèmes de Baudelaire, cette mer de chagrin sans horizon et cet horizon vide, si vous voulez. Et c'est encore Barthes qui écrit dans ses notes, « En fait, au fond, toujours ceci, comme si j'étais comme mort. » Pour le sujet en deuil, c'est un peu comme si toute tentative pour donner du sens, pour narrer, pour dialectiser, pour sortir de cette répétition que Barthes qualifie d'erratique, eh bien, l'idée de sortir de cela serait scandaleuse, serait sacrilège, serait impie, car elle imaginerait qu'une issue est possible, elle dénaturerait le deuil, et il me semble que dans ces pages de Barthes, l'émotion, d'une certaine façon, est très proustienne, à la manière de ce qui se produit dans Albertine disparue, où chaque sensation peut rappeler un autre aspect intégrale de la mer. Et l'émotion est à chaque fois entière, dans une sorte d'envahissement complet, toujours comme au premier jour. Barthes écrit ainsi, « À chaque moment de chagrin, je crois que c'est celui-là même où pour la première fois je réalise mon deuil. » Chaque nouvelle émotion est comme la première. Pour la première fois, je réalise mon deuil. Cela veut dire totalité d'intensité. À chaque remémoration, à chaque évocation de la mer, c'est comme si c'était la première fois et dans l'intégralité de l'émotion. Par exemple, à propos d'une boîte, une boîte à poudre de riz, entreaperçue dans un film de Bette Davis. Toute ma petite enfance me revient. Et cette image de la, cette sensation de la poudre de riz, on la retrouvera dans La Chambre claire, associée donc à la mer. Ou dans un autre film que Barthes qualifie de stupide et grossier. Le détail peut être stupide et grossier, il n'en est pas moins porteur de l'infini de l'émotion. Tout d'un coup, tout d'un coup, un détail de décor me bouleverse. Une lampe à abat-jour plissée, cordelière pendant. Mam en faisait. Tout elle me saute au visage. Cette intégrité, de nouveau, cette intégralité de l'émotion, tout elle, ou encore un peu plus loin, avec un autre film de Hitchcock, cette fois, Les amants du Capricorne, et c'est Ingrid Bergman, l'actrice, quelque chose qui me rappelle Mam. Et c'est encore un détail du film. Vous le voyez, curieusement, on pourrait dire curieusement, ces moments d'émotion liés à des images, ces réminiscences intégrales provoquées par des images, avec un détail poignant, hein, une boîte à poudre de riz, un abat-jour plissé, eh bien ces réminiscences sont liées à des films. Elles ne sont pas liées à des photographies, alors que c'est dans la photographie que, dans la chambre claire, Barthes trouvera ces détails qu'il qualifiera de poignants, ce qu'il appellera le punctum de la photographie. Ici, c'est dans le film qu'il le trouve. Je dis c'est un peu curieux parce que dans La chambre claire, il y a une sorte de critique du cinéma, parce que justement, le cinéma, le film, il est pris dans le continu, il est pris dans le mouvement. C'est l'image mobile qui est prise dans le continu de la vie. Donc il y a une critique du film dans La chambre claire. Et pourtant, les moments d'émotion dans le journal de deuil, ils sont liés à ces détails poignants découverts au cinéma. Peut-être est-ce en raison justement de l'état de disponibilité qui est accentué par la mélancolie devant le film, devant l'image mobile. D'une certaine façon, rien de plus angoissant que le film dans lequel on n'entre pas, dans lequel on n'entre pas dans ce mouvement de la vie sur l'écran. Il y a un film qui est ainsi évoqué dans La chambre claire, dans lequel il y a, en effet, une image inquiétante, c'est Casanova de Fellini, et Barthes en dit « J'étais triste, le film m'ennuyait ». J'étais triste, le film m'ennuyait. Les deux sont évidemment associés. Et dans cette mesure, eh bien, on pourrait dire que le film n'est plus qu'une succession d'images dans lesquelles ces détails saillants peuvent ainsi émouvoir. Dans le deuil, le moi reste intact, prêt à être intégralement réveillé par le moindre détail, le moindre hasard d'une émotion, et il est ressuscité en entier, comme dans Albertine disparue, et le narrateur, de la même façon, vit l'angoisse ou la culpabilité de cette atténuation de l'émotion. C'est Barthes qui dit « voir avec horreur comme simplement possible le moment où le souvenir de ces mots qu'elle m'a dit ne me ferait plus pleurer ». Et qu'il y a quand même un sentiment du temps ici, mais ce sentiment du temps, quand il a une projection dans le temps, c'est l'horreur d'un temps qui serait justement mobile, d'un temps qui bougerait, et ici, où le souvenir des derniers mots ne le ferait plus pleurer, et le sujet en deuil, de tout son être, lutte contre cette projection de soi dans le temps. Et nous dit-il aussi, la mort d'un proche impose toute une série de démarches administratives, démarches pratiques, qui font comme si on se souciait du temps. Dès qu'un être est mort, dit-il, construction affolée de l'avenir, changement de meubles, etc., aveniromanie. tout le reste du monde et le monde qui est emporté dans le mouvement vous semble avniromane, hein, maniaque du futur, obsédé de l'avenir, alors que le temps que vous vivez, c'est celui immobile de l'éternel retour. Par exemple, lorsque Barthes se trouve devant une série de photographies de sa mère, et encore une fois, c'est ce même scénario du retour total du chagrin devant ces photos, un deuil atroce recommence, mais n'avait cessé. Recommencer sans repos, Sisyphe. Bon, allusion donc au mythe même de la répétition inlassable, sans variation, au mythe même du retour du même, hein, ce Sisyphe qui est condamné à rouler, comme dans les images baudelairiennes hein, de tout à l'heure, pour l'éternité, un rocher qui redescend toujours avant de parvenir au sommet. Le deuil, vous voyez ce mouvement du deuil qui est dans cette répétition du même et qui est donc inénarrable. Commencer de le raconter, penser à le raconter, c'est sortir du cercle de la répétition, du retour du même, c'est nier cette essence d'immobilité du deuil. Et c'est pourquoi il me semble que un journal de deuil, celui-là, exemplairement, vérifie en quelque sorte par la voie négative la liaison essentielle du récit et de la vie, du récit et du temps de la vie. Ici, je suspends un petit moment, si vous le voulez bien, l'analyse du texte de Barthes, parce que je crois qu'il faut aussi voir comment, malgré tout, le deuil se fait. Même si on lutte, comme il le fait, contre le récit et contre la vie, contre la continuité, le deuil a lieu. Mais si vous voulez bien, j'arrête un moment l'analyse ce que j'ai appelé cet écrit de vie paradoxale, qui est un journal de deuil, pour vous faire part de ma réaction de lecteur à un certain nombre de passages, d'une gêne ou d'un embarras. Je vous disais l'autre jour que sa lecture m'avait arrêté pour deux raisons. Première raison, parce qu'il me semble qu'il présente, c'est ce que je viens encore de soutenir, l'antithèse du récit de vie. C'est l'antithèse du récit de vie qu'un journal de deuil, c'est l'antithèse du récit de vie tel que j'ai essayé de le décrire ou de le définir. Mais je vous ai dit qu'il y avait une deuxième raison qui m'avait provoqué à vous parler de ce texte, alors que ce n'était pas dans mon idée initiale, parce qu'il m'avait posé une question. Et la deuxième raison, c'est qu'il me pose une question que je n'avais pas prévu d'aborder dans ce cours, c'est celle de la place de l'autre dans l'écrit de vie, celle de la réaction de l'autre quand il s'y reconnaît comme figurant. Il se trouve que je me reconnais comme figurant dans ce texte et je voudrais vous en dire quelques mots. Ce que ça fait se reconnaître comme figurant dans un texte de vie, dans un écrit de vie. Quand on se reconnaît comme figurant, comme personnage fugitif ou comme interlocuteur. Je crois que c'est une expérience qui mérite d'être évoquée. Et voici donc quelques réflexions qui sont à la fois sur le texte de Barthes et sur cette expérience de deuil et sur l'expérience du lecteur qui s'y reconnaît parce qu'après tout, cette expérience fait fatalement partie de l'écriture de vie qui expose les autres. Si je n'avais pas décidé de vous parler un petit peu de ce journal de deuil, il est certain que j'aurais fait l'autruche, comme on dit. Je l'aurais parcouru, puis je l'aurais mis de côté sans le lire vraiment, et je l'aurais laissé à l'écart. Je n'y serais pas revenu. Et en le feuilletant, mais je crois que c'est une réaction qui est assez ordinaire, en le feuilletant, j'ai commencé par sauter quelques pages. J'ai feuilleté plusieurs fois et j'ai sauté les mêmes pages que je n'avais pas envie de lire, parce que je n'avais pas envie d'y être confronté, parce qu'en les tournant, j'y avais reconnu mes propres initiales, hein, comme quelque chose qui saute à la figure. Et je voudrais essayer de dire quelques mots de cette expérience qui touche aussi à l'identité, à la continuité et à la multiplicité du moi, puisqu'après tout, c'est un texte de 1977 et nous sommes en 2009. Beaucoup de temps a passé entre les deux. Et pourtant, quand on se trouve confronté à ce type d'expérience, il y a fatalement une mise en cause, et c'est une expérience ordinaire, fréquente et banale. Tout écrit de vie engage d'autres personnes, de manière centrale ou de manière fugitive, que le narrateur de l'écrit de vie. C'est pourquoi on attend souvent la mort des autres, comme Proust a attendu la mort de sa mère et le deuil de sa mère pour réussir à faire la recherche du temps perdu. Et d'autres s'y reconnaîtront, comme Montesquieu en Charlus. Cette expérience fait donc partie intégrante du récit de vie, et derrière les initiales dont le journal de deuil est parsemé, l'ayant fréquenté dans ces années-là, je reconnais des personnes, des êtres réels, vivants ou morts depuis. Je crois qu'apercevant ces initiales dans un livre, ben fatalement, on redoute cette rencontre. Je ne dis pas « je » parce que je crois que je peux généraliser ce type de sentiment. On redoute cette rencontre parce que c'est une épreuve de reconnaissance. On est immanquablement soumis à une épreuve de reconnaissance. Et il faut du temps pour s'y préparer, pour la négocier. J'ai dit, au cours d'un certain nombre de leçons, qu'une vie, c'est un récit. Eh bien, que se passe-t-il si il y a un nouveau témoignage qui est apporté et que ce nouveau témoignage ne s'intègre pas ou s'intègre mal dans l'histoire qu'on se raconte à soi-même et qui est toujours de l'ordre de la justification. On a parlé de justification l'an dernier, d'auto-justification à peu près à propos de la recherche du temps perdu. Voici encore un exemple. Toute histoire qu'on se raconte de soi est de l'ordre de la justification. Elle est également de l'ordre de cette expression que j'avais eu du mal à traduire l'an dernier, de la self-deception, hein. De l'illusion sur soi, de la mauvaise foi. S'apercevoir dans la mémoire d'un autre, dans le miroir d'un autre, c'est une expérience qui provoque nécessairement un trouble, puisque cela vous contraint ou peut vous contraindre à réviser votre propre histoire, c'est-à-dire votre propre vie, c'est-à-dire votre propre identité. J'ai à plusieurs reprises, je crois, chaque année, je crois que je l'ai évoqué, les 3 années de secours, peut-être pas, mais en tout cas 2, et encore il y a quelques semaines, cette scène, à mes yeux, importante de la recherche du temps perdu, où le narrateur se découvre vu par M. de Norpois. Vous vous en souvenez. Lorsqu'il a honte, hein, c'est un moment de honte et de rougissement où il découvre la manière dont Norpois se souvient de lui lorsqu'il raconte des années plus tard dans un salon que le narrateur a été sur le point de lui baiser les mains parce qu'il était prêt à parler de lui chez Madame Swann. Et l'an dernier, j'ai, à partir de cette scène, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'ai évoqué cette expérience troublante qui consiste à se voir en son absence. Se voir en son absence, se voir comme on est vu quand on n'est pas là, surprendre son absence. J'en ai analysé plusieurs occurrences dans la recherche. Il me semble que c'est une situation qui préoccupe Proust parce que c'est une situation où l'identité vacille. C'est la même inquiétude, le même genre de perte d'assiette que nous avons évoqué il y a quelques semaines, justement à propos de l'identité. Je l'évoquais à propos de James écrivant des préfaces à la fin de sa vie pour ses œuvres de sa jeunesse et se sachant, bien entendu, l'auteur de ses premiers romans, mais ne se reconnaissant pas dans ses premiers romans. Ou Montaigne, même expérience chez Montaigne, faisant des additions un certain nombre d'années après, dans le livre 1 des essais, et sachant bien qu'il en est l'auteur, puisque c'est écrit, mais ne s'y reconnaissant pas nécessairement. C'est le même trouble qu'on ressent quand on retrouve donc un texte ancien, un vieux livre comme James, ou une vieille photographie dont on a oublié l'existence ou dont on ne connaît pas l'existence, comme quand on découvre un profil qu'on ne reconnaît pas dans un miroir. Et je crois que ces situations amènent la tentation d'éviter cette épreuve de reconnaissance et donc un rituel conjuratoire. Dans La chambre claire de Barthes, il y a justement une telle scène qui est évoquée, une expérience de ce genre à propos de la photographie. La photographie, nous dit-il, sa définition, son noème, c'est « ça a été ». Puisqu'il y a photo, ça a été. Eh bien, nous dit-il, j'ai reçu un jour d'un photographe une photo de moi dont il m'était impossible, malgré mes efforts, de me rappeler où elle avait été prise. L'expérience troublante qui nous mène peut-être au thème du double, au thème de la non-reconnaissance. Impossible de me rappeler où elle avait été prise. J'inspectais la cravate, le pullover, pour retrouver dans quelles circonstances je les avais portés. Peine perdue. Et cependant, parce que c'était une photographie, je ne pouvais nier que j'avais été là, même si je ne savais pas où. Cette distorsion entre la certitude et l'oubli me donna un vertige de l'identité, hein, et comme une angoisse policière. Le thème de Blow Up, le film d'Antonioni, n'était pas loin. J'allais au vernissage comme à une enquête pour apprendre enfin ce que je ne savais plus de moi-même. Se lire dans la mémoire d'un autre, dans le miroir d'un autre, c'est donc l'occasion d'une confusion qu'on peut chercher, me semble-t-il, à éviter. Donc, s'il n'avait tenu qu'à moi, eh bien, je crois que la tendance naturelle est de sauter par-dessus ces pages. Mais, pour vous en parler, je me suis quand même décidé à lire ces 2 pages du journal de deuil pour, quelque sorte, briser ce tabou qui m'a, en effet, bousculé. Je vous lis le passage. Expliquer à AC dans un monologue comment mon chagrin est chaotique, erratique, ce en quoi il résiste à l'idée courante et psychanalytique d'un deuil soumis au temps, qui se dialectise, s'use, s'arrange. Rien là de nouveau. Hein. Cette explication, elle résume en fait ce que j'ai tenté de vous expliquer depuis le début de ce cours. Elle est peut-être un peu plus didactique, hein, mais elle est parfaitement conforme à ce que nous avons dit du deuil comme refus du temps du récit, comme refus de la dialectique de la narration. Barthes parle, ce en quoi il résiste à l'idée courante d'un deuil soumis au temps qui se dialectise, s'use, s'arrange. Cela confirme bien cette affirmation du caractère erratique, chaotique du deuil, et ça explique même l'opposition que Barthes fait entre le chagrin et le deuil. Le chagrin est chaotique, erratique. Comment mon chagrin est chaotique, erratique, alors que le deuil, eh bien, il est soumis au temps, il est dialectique. Le deuil est dialectique. Et donc, parler de chagrin plutôt que de deuil, c'est refuser de s'inscrire dans le temps du récit, dans le temps de la narration qui risque de l'user. Et ça confirme la volonté de cet éternel retour du même. Mais voici la suite. À quoi Assez répond, c'est ça le deuil. Il se constitue ainsi en sujet du savoir de la réduction. J'en souffre. Je ne puis supporter qu'on réduise, qu'on généralise. Kierkegaard, mon chagrin, c'est comme si on me le volait. Voilà donc une réaction qui va absolument en sens contraire de ce que voudrait le sujet en deuil. Cette réaction qui généralise, qui réduit, qui vole le chagrin en le nommant deuil. Et l'allusion à Kierkegaard qui est faite ici renvoie justement à cette idée de Kierkegaard que dès qu'on parle, on exprime le général, on réduit. Cette conversation de ce soir-là, cette explication suivie en quelque sorte de ma généralisation ou réduction, comme dit Barthes, c'est ça le deuil, est résumé dans une autre annotation qui suit, à la page suivante. Expliquer à Assez, deuil, ne s'use pas, non soumis à l'usure, au temps, chaotique, erratique, moment de chagrin, d'amour de la vie, aussi frais maintenant qu'au premier jour. Le sujet que je suis n'est que présent, il n'est qu'au présent. Vous voyez que s'ajoute ici cette idée d'arrêter le temps, de sempiternel présent. De fait, je dois bien constater qu'il n'y a pas de page plus nette ni plus catégorique dans ce journal sur cette idée fixe, inhérente au deuil, qui veut en faire une durée sans histoire, une perpétuelle répétition du même. Et c'est ce fantasme que l'interlocuteur de ce jour-là aurait contrecarré d'un seul mot, le mot deuil. C'est ça, le deuil, avec le résultat de blesser, de faire souffrir. Ce qui conduisit Barthes, dans la suite de ce journal, à refuser tout simplement le mot même de deuil au profit de celui de chagrin. Le deuil, je le disais, c'est toujours dialectique. Le chagrin, eh bien, le chagrin, c'est le retour du même. Ne pas dire deuil, c'est trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. Ou, un peu plus loin, Proust parle de chagrin, non de deuil, mot nouveau, psychanalytique, qui défigure. C'est exact. Proust parle très peu de deuil. Il ne parle du deuil d'Albertine, justement, que quand le deuil est fini. Mais pendant tout, il parle du deuil d'Albertine pour constater qu'il est sorti du deuil. Mais le mot ne s'applique pas au processus tant qu'il est en cours. Ou encore chez Barthes, sans doute ce moi gardé. Non, pardon, c'est justement l'exemple que je voulais vous donner de Proust, qui n'emploie le mot deuil qu'une fois sorti du deuil d'Albertine. Sans doute ce moi, toujours dans cette thématique de la pluralité des mois, lorsqu'on sort du deuil, on entre dans un nouveau moi, dans une nouvelle subjectivité. Sans doute ce moi gardait encore quelques contacts avec l'ancien, comme un ami, indifférent à un deuil, en parle pourtant aux personnes présentes avec la tristesse convenable et retourne de temps en temps dans la chambre où le veuf qu'il a chargé de recevoir pour lui continue à faire entendre ses sanglots. Mais c'est le moi divisé qui est encore comme le veuf dans le chagrin, mais qui, dans l'autre pièce, est déjà indifférent au deuil. Ainsi, cette conversation aurait été un peu responsable de ce refus du mot « deuil » et de cette thèse très affirmée sur la chose « deuil non continu mais immobile » ou encore « immobile non soumis à un processus », c'est-à-dire non susceptible d'une histoire, non susceptible d'un mûrissement, d'un développement, d'un récit. Il se trouve donc que ce jour-là, j'aurais tenu le rôle de ce que Barthes appelle l'agent de la réduction, celui qui nomme, celui qui donne un nom à un phénomène, à une expérience dont on voudrait à tout prix qu'elle ne soit pas généralisée. C'est ce que Barthes appelle encore ailleurs dans ce texte la doxa. Cette énorme doxa ou front de taureau, pour employer l'expression de Baudelaire. Bien sûr, on pourrait dire que la plupart des interlocuteurs de l'être en deuil se retrouvent dans la même position. Et il y en a beaucoup d'autres dans ces pages qui, tentant de réconforter l'être en deuil, qu'est Barthes à ce moment-là, le blesse puisqu'il généralise sa situation. Puisqu'ils font comme si le deuil pouvait s'inscrire dans l'histoire, se raconter, et donc, comme toute histoire, se conclure. Par exemple, quelques pages plus loin, je retrouve derrière les initiales CLM, quelqu'un dont peut-être certains d'entre vous se souviennent, qui était, vous vous souvenez peut-être de sa voix, c'était Claude Maupomé qui avait une magnifique émission à France Musique le dimanche, qui s'appelait « Comment l'entendez-vous ?» à l'époque la grande époque de France Musique où le dimanche après-midi, on passait le dimanche après-midi à écouter la tribune des critiques de disques et puis « Comment l'entendez-vous ?» de Claude Maupomé. Et la pauvre, elle joue le même rôle que moi, qui réduit le deuil à sa généralité, parlant à CLM de l'angoisse que j'ai à voir les photos de maman, à envisager un travail à partir des photos, elle me dit « c'est peut-être prématuré ». Et le mot prématuré, c'est celui d'une logique de la temporalité dans laquelle, précisément, l'être en deuil refuse d'entrer. Elle juge prématuré que Barthes entretienne le projet d'un livre sur les photos de sa mère, comme si un mot tel que prématuré pouvait avoir un sens pour quelqu'un qui est en deuil, c'est-à-dire hors du temps de la maturation. Et Barthes de réagir, quoi ? Toujours la même doxa, la mieux intentionnée du monde. Le deuil va mûrir, c'est-à-dire que le temps le fera tomber comme un fruit ou éclater comme un furoncle. Mais pour moi, le deuil est immobile, non soumis à un processus. Voilà comment on peut blesser avec les meilleures intentions du monde. Et pourtant, sortant de cette parenthèse sur la place de l'autre dans l'écrit de soi, cet autre qui, en l'occurrence, continue à vouloir faire de la vie un récit quand le sujet en deuil ne est rien plus que le récit, je reviens à son texte où, en effet, irrémédiablement, malgré le déni du temps qui le caractérise, d'une certaine façon, le deuil se fait. Des étapes sont notées, par exemple la séparation de l'émotivité, les larmes, et du chagrin. Le chagrin qui est toujours là, mais qui devient non plus des moments, justement, mais un état. Un chagrin qui n'est plus constitué de moments d'émotion, mais un état général, et qui, en ce sens, se rapproche de ce que Barthes refuse de nommer un deuil. Et, dit-il, le chagrin, lui, il est toujours là comme une pierre. Le deuil prend son régime de croisière. Où il dit encore que l'émotivité revient dans ce régime de deuil permanent, mais l'émotivité revient, par exemple, lorsqu'il relit son journal. Et la relecture de journal, eh bien, elle montre déjà une certaine distance relative à l'émotion. Le deuil et même le chagrin s'inscrivent donc peu à peu dans une histoire, dans un récit. Et Barthes peut écrire que le second deuil, le vrai deuil, commence, et il commence en vérité avec la lecture de Proust. C'est pourquoi il est parfaitement légitime de le faire intervenir ici. Bon gré, mal gré, le journal de deuil devient le récit du travail d'un deuil. Il annonce un livre à venir, ce livre qui mêlera la photo et maman. Hâte de me mettre, dit-il, hâte, oui. Hâte, autre sentiment du temps, hâte de me mettre au livre sur la photo, c'est-à-dire d'intégrer mon chagrin à une écriture, croyance que l'écriture dialectise les crises. Et vous voyez donc ici, l'écriture revient comme dialectique, justement, cette dialectique qui était naguère oni lorsqu'elle était pensée comme un processus de mûrissement, un processus de relève. Hâte donc d'intégrer mon chagrin à une écriture, croyance que l'écriture dialectise les crises. Par l'écriture, il s'agit d'intégrer et de dialectiser, et Barthes prononce donc ces mots, allant même jusqu'à concéder que le deuil ne pourra s'accomplir que comme un travail d'écriture. Je transforme travail au sens analytique, travail du deuil, du rêve, en travail réel d'écriture. Pour moi, il n'est accompli que dans et par l'écriture. Et voici que l'idée de donner un monument à sa mère dans un livre, eh bien, cette idée donne en quelque sorte un but au deuil. Nécessité du monument, il m'est nécessaire de faire ce livre autour de Mam. Ainsi, on trouve de nombreuses images qui font passer le chagrin d'un état d'éternel retour du même à un état de transformation. Il passe, dit par exemple Barthes, d'un état statique, celui de la répétition indéfinie, à un état fluide, faire passer le chagrin à un état fluide, c'est-à-dire un état marqué par un écoulement, un mouvement, un développement. Ou encore, dans ces mêmes pages, Barthes parle écrire le texte sur maman, c'est la future chambre claire, le départ actif du chagrin, l'accession du chagrin à l'actif. Départ actif du chagrin, accession du chagrin à l'actif. Bon, dans ce chagrin qui devient actif, il faut certainement voir une référence à Nietzsche et au livre de Deleuze sur Nietzsche, qui était l'un des livres les plus importants pour Barthes. Et dans ce livre sur Nietzsche, Deleuze insistait sur les forces actives. L'actif, c'est la force qui est active et qui est un triomphe de la volonté, qui permet de distinguer justement l'éternel retour comme retour du même et l'éternel retour comme affirmation de la vie. Deleuze écrit « Toute chose que je veux, je dois le vouloir de façon telle à en vouloir aussi l'éternel retour. » Donc c'est une transformation de ce qui est réactif, de ce qui est négatif, en ce que Barthes appellera dans les pages qui suivent sa vita nova, sa nouvelle vie. Vous voyez comment il s'agit, au fond, de transformer le deuil en autre vie, transformer cette expérience du vide et du chagrin, qui est celle du deuil, en une affirmation et en un acte de volonté. J'arrête là, puisqu'il est l'heure.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.